Je vous parle maintenant de l'actualité de Fourier, y compris d'une actualité éventuellement ancienne, puisque j'ai essayé de me contraindre à ne pas remonter en deçà des années 60, je n'y suis pas totalement arrivé, mais l'actualité de Fourier, la question de l'actualité de Fourier se pose à chaque époque, et elle commence à se poser très tôt, y compris éventuellement du vivant de Fourier. Mais j'ai essayé de ne pas remonter jusque-là. Cette question-là, Fourier est-il d'actualité ? On peut la poser de différentes façons. Je peux vous en donner quelques synonymes pour que vous compreniez ce que je veux interroger. On peut la poser de la façon suivante. On peut se demander, est-ce que Fourier est moderne ? Je le prends un petit peu dans ce sens-là. Une autre façon de se le poser un petit peu différemment, mais on travaille le même registre, c'est pourquoi lire Fourier aujourd'hui ? Quand je le dis de ces différentes façons-là, je ne fais d'une certaine façon qu'emprunter des titres à une bibliographie des études sur le fouriérisme. Hein. Fourier aujourd'hui, l'actualité de Fourier, ce sont des titres de chapitres, d'articles ou de livres qui jalonnent très systématiquement la bibliographie fourieriste. Et cette question que je vais poser ici d'abord à Fourier et aux études sur Fourier, on peut la poser de façon plus générale à l'ensemble des penseurs sociaux, voire à l'ensemble des œuvres intellectuelles. Pourquoi lire aujourd'hui tel ou tel penseur social, en particulier tel... Enfin, j'emploie cette expression pour éviter, alors, comme toi tout à l'heure, de dire sociologue pour des auteurs ou des inventeurs ou des... philosophe du 19e siècle, et je trouvais que penseur social, c'était peut-être l'expression la plus neutre dans un premier temps, ou la moins discutable. Première question, pourquoi les lire aujourd'hui ? Pourquoi ? Mais pas seulement Fourier, Marx, Saint-Simon, Proudhon. Et comment les lire ? Qu'en faire ? Cette question, je ne me la poserai pas, ou plus précisément, je ne poserai pas le sens de la question... Est-ce que Fourier est d'actualité ? Si d'autres, très nombreux, dans cette longue bibliographie, n'avaient pas systématiquement oublié de se la poser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, d'une certaine façon, qu'on publie quelque chose qui va s'intituler « Actualité de Fourier », on ne se pose jamais le sens de cette question. Il n'y a aucune introduction ni aucune conclusion qui finit par se dire « Tiens, mais au fait, à quoi ça sert de se demander si c'est d'actualité ou pas ?» Non, ça consiste en général tout simplement à affirmer cette actualité. Donc, ce que je veux faire dans une seconde partie, c'est parcourir cette bibliographie des ouvrages, des textes qui tente d'établir ou d'affirmer l'actualité de Fourier, chacun dans leur époque, et de voir éventuellement s'il n'y a pas une transformation du sens de cette actualité de Fourier, y compris simplement sur les 40 dernières années. Mais avant ça, juste dans un premier temps, le plus rapidement possible, essayer quand même de détailler un petit peu, de prendre quand même la question au sérieux, et d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Fourier est d'actualité. Alors, ce n'est pas une question inintéressante, hein. Il faut pas... vous avez compris, je suis un petit peu sceptique hein, face à cette idée de l'actualité de Fourier, mais en même temps, cette question-là et ce relevé des occurrences de cette prétention, de cette affirmation, il m'a semblé que c'était un très bon opérateur, c'est-à-dire que c'est une question très simple qui permet de s'interroger sur ce que c'est que l'histoire des sciences sociales et sur la façon dont on l'écrit, et aussi sur sa fonction. Donc, cela dit, vous avez compris, au départ, je suis sceptique sur ce qu'on pourrait appeler une actualité, y compris aujourd'hui, de Fourier. Ce scepticisme tient à une raison que je ne peux pas mieux formuler qu'en citant Jonathan Beecher, puisqu'il y a une phrase que j'ai utilisée en introduction de ma thèse et que j'ai envie de redire ici. Tu avais écrit « Insister sur la modernité de certaines de ces idées, c'est rendre plus incompréhensible encore celles que nous aurions aujourd'hui tendance à considérer comme ineptes ou dépassées. » Et je crois que ça, c'est un très bon programme ou une très bonne profession de foi d'historien, d'œuvre d'historien, et que c'est celle-là, certainement, que l'on transgresse ou que l'on oublie dès lors qu'on se met à réfléchir en termes d'actualité ou de modernité d'une œuvre ou d'une pensée. Autrement dit, vous avez compris aussi que c'est aussi la meilleure façon, cette prévention ou ce scepticisme de départ, c'est la meilleure façon de se prémunir contre la tentation de la réhabilitation qui forcément peut venir dès lors qu'on passe un petit peu de temps ou un peu trop de temps sur ce type d'objet. Dans la mesure où il faut avoir un petit peu de sympathie quand même à un moment donné, sinon on va faire autre chose. Et on trouve des choses intéressantes et on a envie de dire que Fourier quand même a vu ça, a pensé ça avant les autres, alors que dans son temps on ne le faisait pas. Et on a envie de dire que du coup, le négliger, le mépriser ou l'oublier ou le rejeter, c'est ne pas lui faire justice. Et on a envie de faire en sorte que le travail qu'on fait soit aussi en partie, consiste en partie à lui rendre justice. La dérive peut être très très rapide. J'ai essayé de m'en défendre assez régulièrement, mais c'est pas toujours simple. L'idée, donc, c'est, pour se protéger contre ce genre de risque, reprendre la question de l'actualité et essayer de la décortiquer. Prenons-la au sérieux un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on interroge quand on pose la question de l'actualité d'une pensée? D'abord en général, et après on l'appliquera à Fourier. D'abord, on affirme quelque chose sur sa pertinence, c'est-à-dire sa capacité à rendre compte de façon adéquate d'un ensemble de phénomènes sociaux. Alors déjà, sa pertinence dans son temps, ça veut dire d'un ensemble de phénomènes sociaux qui constituent aussi le contexte de son élaboration. Déjà, la première pertinence de l'œuvre de Fourier, ce serait celle-là. Rend-il adéquatement compte de son époque, hein, du contexte économique, social, politique dans lequel il écrit. Et en général, on va considérer que cette capacité est assurée par la rigueur méthodologique, la scientificité, l'observation, etc., ayant servi à l'élaboration de la pensée. Et on va aller chercher certains, au moins les attributs externes de cette rigueur ou de cette scientificité. Bon. Il se trouve que, pour le dire rapidement, ici, de façon pas très rigoureuse, en sociologie, les énoncés sur le monde social ont une date de péremption. C'est-à-dire qu'ils ne restent valides que pour autant ou que le temps que les contextes de leur élaboration ne sont pas modifiés. Et donc l'obsolescence de ce type d'énoncé est produite par le changement historique. On a l'habitude de prêter à Max Weber la formule selon laquelle la sociologie serait une science éternellement jeune. Passeront le fait.
Oui, mais j'ai sur le théorie de la science.
Ah ben merci. J'aurais pas dû chercher tout seul, j'aurais dû vous demander plus vite. Où c'est?
C'est même cité dans un certain article.
D'accord, bon alors faut pas que je renote ça. Un point pour vous. Non, j'entendais pas nier qu'il l'avait dit, ni écrit. Mais d'abord, c'est vrai que moi j'avais pas trouvé mal lu certaines personnes. Pour les mêmes raisons qu'ils la font, en tout cas éternellement jeune, selon l'expression de Weber, il se trouve que du coup la sociologie ne reste pas éternellement fraîche ou vivace comme les plantes, et qu'il faut régulièrement refaire le travail. Donc, dans ce contexte-là, qui est celui de la validité ou du domaine d'extension de la validité des énoncés sur le monde social, qu'est-ce qu'on dit quand on continue malgré tout d'invoquer l'actualité d'une pensée historiquement passée? D'après ce qui précède, on affirme sa capacité, alors qu'elle a été élaborée dans un autre contexte socio-historique, dans un état, ou alors dans un état antérieur d'un contexte social donné, à continuer de rendre compte de façon adéquate des phénomènes sociaux qui ne sont survenus que postérieurement à son élaboration. Ça ne peut pas être autre chose. Je dis Fourier est actuel, c'est-à-dire avec Fourier, qui a écrit ça il y a 150 ans ou il y a 175 ans, je peux penser le monde d'aujourd'hui. C'est assez fort. Et la question c'est comment est-ce que c'est possible? C'est cette question-là qu'on peut essayer dans un premier temps de prendre au sérieux. Alors, j'ai essayé, dans l'ensemble de ce qu'on a pu écrire pour défendre l'idée de l'actualité de Fourier, de recenser un petit peu ce qu'il peut en faire, justement, ce qu'il peut faire, la possibilité de cette opération de transmutation d'une pensée d'un contexte vers un autre. Première chose, premier registre, la similarité des contextes sociaux entre donc la France que connaît Fourier de la première moitié du XIXe siècle et aujourd'hui, ou bien les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, à chaque fois qu'on a affirmé l'actualité de Fourier. Autrement dit, ce serait parce que le contexte présente des similarités qu'on peut continuer à utiliser Fourier. À chaque fois qu'il va y avoir une crise qu'on va penser ressemblante à celle qui est ouverte par la Révolution française et la Révolution industrielle, on va se dire qu'on peut continuer à utiliser les penseurs sociaux de la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire de cette période d'élaboration de la question sociale dont on ne serait pas encore sorti. Ça veut dire, ça peut vouloir dire ça, l'actualité d'une pensée de la première moitié du XIXe siècle. Et il se trouve effectivement que la théorie de Fourier, son œuvre, est profondément une théorie critique, c'est-à-dire contre, ce qui fait dire à certains, qu'on va envisager juste après, qu'il vaut encore la peine aujourd'hui de lire certaines de ses analyses de la misère, de la fourberie économique, de la vie domestique, etc. Les crises étant similaires, on peut continuer d'utiliser Fourier pour les penser. Deuxième registre qui peut fonder un discours sur son actualité, c'est, alors l'appellation n'est pas contrôlée du tout, mais je l'utilise faute de mieux pour l'instant, ce que j'ai appelé un utopisme heuristique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, le producteur de la pensée, les contextes ne sont pas similaires, mais il a été suffisamment fort pour anticiper des évolutions, les deviner, décrypter des tendances, prolonger ce qu'il observe dans son temps pour lire le futur, faire de la prospective. Il y a eu, à un moment donné, il me semble, en sociologie, peut-être qu'il n'est pas totalement disparu, une mode prospective. J'ai vu quelques sociologues se qualifier aussi de futurologues, voilà, c'est-à-dire l'idée de décrypter les tendances. Ce qui fait de ces penseurs les précurseurs. Rétrospectivement, ce sont ceux-là qu'on va désigner comme précurseurs, c'est-à-dire dont on va distinguer la capacité à dégager les tendances à l'œuvre dans leur époque. Ça s'applique relativement bien au cas spécifique de Fourier, dans la mesure où on a pris l'habitude de le ranger dans une catégorie de pensée, de système ou de doctrine qu'on a qualifié d'utopique, et que ça pourrait être justement un des sens qu'a illustré et défendu Jonathan la semaine dernière dans sa conférence de l'utopie. Désolé. Un des sens de l'utopie qui serait celui de ta deuxième conception, la bonne conception, c'est-à-dire l'utopie comme exploration intellectuelle des possibilités contenues dans le réel, possibilités latérales, c'est une expression de Raymond Ruyer, je crois, c'est les possibilités latérales du réel qu'on explore en imagination. C'est l'utopie au sens de Ernst Bloch. C'est ce que tu avais montré la semaine dernière. Donc voilà. Et ce serait une qualité, hein, d'une certaine façon, mais une qualité du penseur ou du philosophe. Dans ce sens, on peut jouer un petit peu avec les mots. La pensée utopique, et la pensée de Fourier, si elle en fait partie, est d'une éternelle actualité. Elle sera toujours d'actualité, au sens où elle est toujours déconnecté ou déphasé par rapport au réel de son temps. C'est-à-dire qu'en gros, elle va toujours être inactuelle, toujours à côté de la plaque, et donc d'une certaine façon, toujours en phase avec quelque chose qui va venir après. Et il suffit qu'on décrète que l'après est advenu pour considérer que tout d'un coup, cette pensée devient ou redevient d'actualité. Plus sérieusement, dans une version un petit peu moins farfelue, cette tendance-là est extrêmement forte dans l'histoire des sciences sociales. C'est la tendance qui consiste à aller chercher des fondateurs, des précurseurs, des accoucheurs, c'est un mot de Jean-Michel Berthelot, rétrospectivement. Et je vais pas développer, je l'ai fait ailleurs, je vais pas le refaire ici, je voudrais juste signaler que d'une certaine façon en sociologie c'est Durkheim qui ouvre les hostilités dans ce domaine, puisque son entreprise de fondation de la sociologie s'appuie dès l'origine, voire même un tout petit peu avant son origine, si on la situe à lui-même, sur une entreprise explicite de désignation de ses propres précurseurs. La sociologie n'existe pas encore, que Durkheim désigne déjà Montesquieu, Rousseau, dans des textes publiés beaucoup plus tard, Saint-Simon, comme les précurseurs, les fondateurs, les uns sont des précurseurs, les autres sont des fondateurs de cette science sociale qui est encore en construction. Mais ça fait partie du processus de sa construction. Troisième registre qui rend possible l'actualité d'une pensée, c'est ce que j'ai appelé, et là l'appellation est mieux contrôlée mais elle n'est pas de moi, la force intrinsèque de l'idée vraie. C'est-à-dire que une pensée peut être actuelle, et la pratique de ceux qui s'en réclament, parce qu'en réalité elle a produit elle-même les transformations du contexte dont on va observer les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que Fourier ne serait pas actuel parce que le contexte est le même, il ne serait pas actuel seulement parce qu'il a lu les tendances, il les a devinées, il sera actuel parce qu'il est le moteur de l'histoire qui conduit jusqu'au contexte social, économique, politique dans lequel nous vivons aujourd'hui. La question devient évidemment extrêmement compliqué, parce que la question c'est alors comment est-ce qu'une pensée peut engendrer des transformations socio-historiques. Après marxiste, si on commence à penser comme ça, pour commencer. Maintenant, même sans Marx, c'est quand même assez difficile à conceptualiser. J'ai déjà moi-même personnellement du mal à concevoir comment une pensée arrive à engendrer une autre pensée. Non, c'est-à-dire, dans l'histoire des sciences sociales, à chaque fois qu'on va essayer de la représenter sur un tableau, on va mettre Durkheim, Weber, des flèches qui descendent et qui engendrent une généalogie de la pensée qui se déroule de façon souvent ininterrompue, de précurseur ou de fondateur jusqu'à l'état actuel, contemporain du champ sociologique. Moyennant quoi, on s'abstient généralement de penser les processus concrets, réels, d'engendrement d'une idée par une autre, d'une pensée par une autre. Et quand on commence à les regarder d'un petit peu plus près, on se rend compte que ces processus, on parle ici de réception, il faut concevoir la réception comme un processus extrêmement actif, qui est aussi un processus d'interprétation, de construction, de lecture et d'écriture sur les œuvres, dont je donnerai ensuite quelques exemples. En tout cas ici, il est certain que cette idée-là, Fourier l'avait. Fourier croyait très fortement à ce que j'appelle la force intrinsèque de l'idée vraie, mais c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est d'abord Spinoza, c'est ensuite Engels à propos même de Fourier, c'est ensuite Bourdieu à propos d'un certain état du champ scientifique, ou une conception du fonctionnement du champ scientifique, c'est-à-dire Fourier a bien l'idée qu'il va suffire à un moment donné. Alors, peut-être pas seulement que les gens lisent la théorie des quatre mouvements ou le traité de l'association domestique agricole, mais qu'au moins ils voient le spectacle de l'idée mise en pratique dans une seule, ça suffit, une seule expérience de phalanstère. Et c'est pour ça que quand on discutait de son lectorat imaginaire ce matin, très rapidement, il n'a plus qu'un seul lecteur en tête. Un seul lecteur va lui suffire, celui qui va financer le phalanstère. Et le spectacle du phalanstère, par contagion, va convaincre la société dans son ensemble de la validité de sa théorie et va en produire la mise en pratique. C'est évidemment ce qui lui est reproché ensuite, très clairement, par Engels. Engels commence par chanter les louanges de Fourier pour dire très rapidement que quand même ce qui est déplorable chez lui, c'est cette croyance dans la force intrinsèque de l'idée. Et c'est ça que Engels va qualifier d'utopique versus le socialisme scientifique. Voilà, trois pistes principales, et ensuite on va voir comment elles s'actualisent dans, c'est le cas de le dire, telle ou telle entreprise d'actualisation de la pensée de Fourier au cours des quatre dernières décennies. Je voudrais juste rajouter une quatrième piste, mais c'est un petit peu une fausse piste, mais pas tant que ça. Une pensée peut aussi être d'actualité simplement parce qu'elle est dans l'actualité. Et dans certaines expressions qu'on va trouver dans les œuvres, ça veut dire c'est juste parce qu'on en parle. Et à un moment donné, on va dire Fourier est d'actualité, ça veut dire tiens, tout le monde se met à publier sur Fourier, Fourier est à la mode. C'est anecdotique, et en même temps ça ne l'est pas tant que ça, parce que ça veut dire que si on le pense un petit peu aussi comme ça, on voit bien que ce que ça peut être l'actualité d'une pensée, c'est-à-dire une construction. Une construction intellectuelle, une construction médiatique, une construction sociale, une construction historique, et que ça correspond à un certain nombre d'entreprises. Donc, sans forcément avoir tellement d'autres cohérences que la cohérence chronologique, je voudrais vous montrer quelques-uns des jalons de cette longue histoire de, finalement, ce qui est l'éternelle actualité de Fourier. Alors, je vous préviens, à la fin de ce panorama, vous allez, enfin moi j'ai eu un petit peu le vertige, au sens où, quand on met tout bout à bout, on a le sentiment que Fourier, en tout cas si on le lit enfin, au premier degré, que Fourier a tout découvert, tout inventé, ou au moins tout préfiguré. Et la liste est très très longue, et parfois un petit peu abracadabrante, mais... Bon, j'espère. Je ne perdrai pas votre sens critique. Mais et encore, je remonte seulement 40 ans en arrière, j'ai laissé beaucoup de choses de côté. Je vous énumère très très rapidement, mais en deux secondes, ce que j'ai laissé de côté. J'ai laissé de côté ce dont on a déjà beaucoup parlé, c'est l'actualisation de Fourier par Fourier lui-même. Hein. C'est-à-dire l'autoréception, mais qui prend en partie la forme d'une autocensure ou d'une entreprise de moralisation de sa propre doctrine. On en a parlé ce matin, on en a reparlé un petit peu cet après-midi. Tu as dit que les disciples ne sont pas les seuls coupables. Effectivement, Fourier commence lui-même à faire ce travail. Il y a ensuite le travail des disciples, c'est aussi une entreprise d'actualisation, c'est-à-dire... C'est pas de dire Fourier est encore d'actualité, c'est de dire voici ce qui, pour l'instant, est d'actualité dans Fourier. Il y a des choses, bon, on va laisser tomber, il y en a d'autres, on verra beaucoup plus tard. Mais voilà, c'est un travail d'actualisation. Ce que je laisse de côté la réception dans l'associationnisme et dans le coopératisme, au tournant du siècle, de Fourier, par Charles Gide, qui va en faire un des précurseurs du coopératisme, ça n'est pas le seul. Le mouvement coopératif, y compris jusqu'à aujourd'hui, est un petit peu partagé entre deux figures, celle de Fourier d'un côté, celle de Buchez de l'autre. Et on a une tendance buchezienne et une tendance fourieriste, y compris encore aujourd'hui dans le mouvement coopératif. En même temps, je voudrais signaler que Charles Gide disait clairement que c'était une construction. Il a une formule qui est citée par Henri Desroches et qui est vraiment chouette, que je voudrais citer. Il dit, à propos de sa propre entreprise d'investissement de Fourier dans le coopératisme, il dit « L'idéologie de ce réinvestissement ne serait pour autant escamotée une sociologie de la récupération, moyennant laquelle la coopération est moins la fille naturelle de Fourier que Fourier n'est son père adopté. » Et ça a le mérite de la clarté et de la lucidité. Ce que je laisse de côté, le surréalisme, donc on en a parlé avec André Breton. Ce que je laisse encore de côté, l'écologie politique, ou l'environnementalisme, dites-le comme vous voulez. On peut et on a utilisé Fourier, y compris très récemment, avec un recueil de textes édité par René Scherrer en 2001, utilisé Fourier pour montrer qu'il a été le précurseur, d'une certaine façon, des préoccupations, de préoccupations très contemporaines en matière d'écologie politique. Ce que je garde, ça, on commence à peu près en 1966, autrement dit, il y a exactement 40 ans, et ça commence, l'histoire que je veux vous raconter, avec un livre écrit par Émile Lehoucq, qui s'intitule « Fourier aujourd'hui », et l'histoire, en fait, dès qu'on ouvre le hook, l'histoire, on remonte tout d'un coup encore de 30 ans, puisque Émile Le Hook entreprend un travail extrêmement explicite de détachement de Fourier de la tradition marxiste ou pré-marxiste dans laquelle l'avait inscrit les marxistes de la première moitié du XXe siècle, et en particulier Félix Armand et René Maublanc, qui avaient publié un Fourier aux éditions sociales internationales, qui visait, dans la lignée de ce qu'avaient déjà fait eux-mêmes Marx et Engels, à construire la place de Marx dans l'histoire de ce qui conduit au marxisme et au socialisme scientifique. C'est-à-dire un travail à la fois de publication ou de diffusion de l'œuvre de Fourier, mais en même temps de reconstruction de cette œuvre, dans un sens très marxiste. Et Le Hook entreprend de démonter tout ça, hein, en montrant que, en réalité, l'œuvre de Fourier a un caractère beaucoup plus scientifique que celle de Marx, qu'il y a de l'utopie dans le marxisme, ce qui ensuite débouche sur une tradition qu'on connaît, prolongée par Miguel Abinsour, etc. C'est-à-dire insister sur le Marx utopiste, montrer le Fourier scientifique, renverser les rôles, d'une certaine façon, institués et distribués par Marx et Engels dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est un jeu qui a été relativement classique dans les années 60. Le Hook finit par qualifier l'œuvre de Fourier d'utopie scientifique, jouant à brouiller les cartes que Marx et Engels avaient cherché à distribuer. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que moi, il me semble qu'elle contribue en réalité complètement à entériner la distinction marxiste entre socialisme utopique et socialisme scientifique, dans la mesure où, en s'en prenant à Marx et Engels et en y cherchant l'utopie, on valide l'étiquette utopie contre science, ou le partage utopie contre science qu'ils avaient essayé de construire. Mais bon, je passe. Donc là, on est dans une première phase, et Le Hook ne travaille que le registre, d'une certaine façon, économique. L'ordre de ce que Fourier appelle les destins publics, enfin, c'est-à-dire pas la dimension privée, pas l'économie domestique, pas le ménage, le mariage et la liberté amoureuse. Ça va se jouer un tout petit peu après, et la charnière, c'est certainement effectivement la publication du Nouveau Monde Amoureux. Et ce qu'il faut bien voir, donc je rajoute juste ça à tout ce que tu as très bien dit, c'est que la publication du Nouveau Monde Amoureux force nécessairement une reconstruction globale du sens de l'œuvre de Fourier. Ça veut dire qu'on rajoute, c'est quelque chose de très particulier, hein, un texte écrit 150 ans auparavant, qui n'est publié qu'à la fin des années 60, et qui oblige à une recomposition de l'ensemble de l'œuvre de Fourier, mais extrêmement tardive. Et évidemment, à partir de là, on a tout un ensemble de textes, de colloques, de travaux, qui vont aller chercher l'actualité de Fourier ailleurs que dans la discussion avec Marx et Engels sur l'organisation productive. L'exemple que j'ai en tête, les deux exemples que j'ai en tête, c'est d'une part le colloque d'Arquet-Senant de 1972, qui s'intitule évidemment Actualité de Fourier, dont les actes sont publiés en 1975 sous la direction et avec une introduction de Henri Lefebvre. On est encore à cheval, c'est-à-dire que dans le colloque d'Arquet-Senant, il y a à la fois la dimension économique qui continue d'être travaillée, y compris par Guy Hockenheim, enfin, Fourier théoricien de la production, etc., mais déjà d'une production dans un sens un petit peu plus général ou vaste que simplement celui de la production économique. Et il y a des textes qui commencent à travailler l'idée de la liberté amoureuse et des idées ou des conceptions de Fourier sur les destins privés. Il y a aussi quelque chose de Simone Debout sur l'écriture de Fourier. Donc il y a les trois traditions dans lesquelles on inscrit Fourier généralement: la tradition économique, la tradition morale et la tradition littéraire, qui sont examinées et réexaminées. Et ce que dit, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Henri Lefebvre dans l'introduction pour défendre l'idée d'une modernité ou d'une actualité de Fourier. D'abord, il commence en constatant que, on est au début des années 70, qu'on lit moins Descartes dans les universités, chez les étudiants en philosophie, que celui qu'il appelle ce demi-fou qui se nomme Fourier. Et il se demande comment on le lit, pourquoi faire. Et il a une réponse qui est très intéressante parce que Henri Lefebvre passe toute l'introduction à ironiser assez lourdement sur ceux qu'il nomme les purs, c'est-à-dire sur ceux qui disent Fourier savamment. Il faut entendre sur les universitaires. Et il dit sur ceux qui disent Fourier pour rien. Et il dit, et il attire l'attention, et il appelle à faire comme eux, sur les impurs, c'est-à-dire ceux qui disent Fourier pour apprendre à vivre, alors je le cite, hein, là, ça prend la même précaution que toi, pour apprendre à vivre avant qu'il ne soit trop tard. Henri Lefebvre. Et tout le reste de l'introduction est du même bois, c'est-à-dire qu'en parfaite cohérence, c'est un appel contre une lecture intellectualiste, universitaire de Fourier, avec cet argument massu, d'une certaine façon, avec lequel il faut aussi discuter, il dit « Ces lecteurs ne sont pas ceux que Fourier souhaitait et pour qui il écrivait. » Mais voilà, il y a une affirmation qu'il faut prendre. Et donc, la modernité de Fourier, selon Henri Lefebvre, qui fait qu'il vaut la peine d'être lu, et qu'il faut le lire comme ça, elle est profondément liée à cette particularité, à ce registre-là que j'ai évoqué précédemment, qui est celui qui fait que sa pensée appartiendrait au registre de l'utopie. En gros, l'idée, je cite Henri Lefebvre, « Quoi de plus moderne et de plus réaliste qu'une pensée qui déraisonne ?» L'idée, c'est que, étant déraisonnable, n'étant pas accordée à la raison de son temps, elle est actuelle. Deuxième exemple que je prends dans les années 70, c'est un livre qui porte le même titre, Actualité de Fourier, L'actualité de Fourier, écrit par Jacques Debubridel en 1978. Debubridel prolonge le travail entrepris par Émile Lehoucq de détachement de Fourier, de la tradition ou de l'inscription pré-marxiste, pour tenter, alors cette fois-ci plus clairement que Émile Lehoucq, de l'enraciner dans une autre tradition, la tradition psychanalytique, la tradition morale, celle des destins privés, celle de la liberté amoureuse, la construction de la liberté amoureuse. L'entreprise de Bubridel commence par ces mots, revoilà, et à juste titre, Fourier d'actualité. Et ici, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il l'explique après. D'abord, être d'actualité, ça veut dire, au sens de la fausse piste que j'évoquais tout à l'heure, être dans l'actualité. Hein, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, donc Fourier d'actualité. Ça veut dire que c'est un petit peu tautologique. Hein. Si Fourier d'actualité, c'est parce que d'autres ont décrété qu'il était d'actualité et ont décidé d'en parler. Mais, d'une certaine façon, il y a un moment où, visiblement, on peut tout à fait, on va se contenter de ce type d'actualité et ne pas chercher plus loin que si tout le monde en parle, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison et je vais le faire à mon tour. La question, c'est en quoi est-ce que c'est à juste titre, hein, parce qu'il dit quand même, c'est à juste titre qu'on en parle beaucoup. Alors en quoi est-ce que c'est à juste titre? Bon, on découvre au fur et à mesure du travail de Debubridel les apports de Fourier à la pensée du monde contemporain. Je vous le cite, par exemple, page 18, Fourier, le premier, a défini nos systèmes contemporains de coopératives de consommation et de production, les ventes directes de producteurs à consommateurs, le remembrement agricole et les silos, la réglementation de la chasse et de la pêche alors livrée au bon vouloir des riches, les nouvelles méthodes d'enseignement, la construction d'habitations à bon marché par les collectivités, les allocations de chômage pour que les sans-travail ne meurent pas de faim et ne se fassent pas brigands. Enfin, après Platon, mais sans abolir la famille, il n'est pas d'accord avec toi, la prise en charge des enfants par la collectivité pour l'enseignement, aujourd'hui fait acquis, et l'entretien, partiellement réalisé par les allocations familiales. Il n'est pas le seul, enfin, je vois, c'est facile de rigoler, il n'est pas du tout le seul à faire ce travail-là dans les années 70. Par exemple, un peu plus tôt, dans Vivre avec Fourier, Roland Barthes concluait au, je le cite, caractère raisonnable des délires de Fourier, puisque certains sont en voie d'application, accélération de l'histoire, modification des climats par la culture et l'urbanisation, percée des isthmes, transformation des sols. C'était les endroits dans ma thèse où j'avais mis des points d'exclamation que tu m'avais fortement reproché. Et là, j'en ai pas mis du tout. Je n'ai pas de points d'exclamation.
Je n'ai pas que j'étais d'accord avec
ça. J'ai dit qu'on ne doit pas mettre des points d'exclamation quand on fait ça. Je suis d'accord avec toi. Autrement dit, à quel registre de justification de l'actualité on se rattache ici? Debut Bridel écrit que le retour en faveur de Fourier tient à la nature de la société en notre fin de siècle. Autrement dit, ce serait une sorte de similarité, enfin, ce serait le registre de la similarité des contextes. Je voudrais juste faire remarquer qu'on est en 78 et que pour Denis Bridel, il dit en cette fin de siècle, il se trouve que la fin du siècle en 1978, le siècle va lui réserver encore quelques surprises à mon avis, mais ce qui est dommage pour quelqu'un qui pense avoir prévu les choses, mais bon. Et il ajoute, ce sont en définitive les événements, plus que les modes et la discussion théorique, qui ont rendu Charles Fourier à sa place dans une société en pleine crise, dont toutes les règles de vie, dont tous les principes sont remis en cause. Et donc, c'est d'une certaine façon la parenté de la crise rencontrée, selon Debut Bridel, par la société française dans les années 70, qui permet de réutiliser, qui remet Fourier au goût du jour. Et il ajoute, et j'arrêterai là, j'arrêterai de le martyriser ici, il ajoute, mai 68 est alors analysé comme, je le cite, un symptôme, souvent bien sûr inconscient, de ce retour à Fourier auquel nous assistons. Voilà, je vous laisse, ça ouvre des abîmes assez insondables. Mais bon. Je saute, pardon. Voilà, ce travail-là, on a un certain nombre d'exemples. Il ne s'arrête jamais, d'une certaine façon. Je vais te donner l'impression, en passant tout de suite aux années 2000, qu'il y a une rupture de continuité, qu'on n'aurait pas prolongé ce travail-là. Mais non, quelque chose de relativement continu. Le dernier exemple que je vais prendre, ou presque, c'est celui, effectivement, que tu as mentionné tout à l'heure, de Patrick Takusel. Patrick Takusel a écrit en 2000... Patrick Takusel est sociologue. Enfin, de profession. Non, je sais pas. Patrick Takusel est professeur
à l'université de Montpellier.
À l'université de Montpellier, en sociologie. Et il a écrit en 2000 un livre intitulé, donc moi honnêtement que j'ai acheté de bonne foi à l'époque, en train de finir ma thèse, intitulé Charles Fourier, le jeu des passions, actualité d'une pensée utopique. Et j'ai été d'ailleurs très frappé en retrouvant récemment le compte-rendu fait par Chantal Guillaume dans les cahiers Charles Fourier de ce livre au moment de sa parution, de voir que Chantal, qui devait avoir à peu près la même absence de prévention que moi à l'époque, tique beaucoup aussi, quoi. Alors, le lisant sans savoir qui est Patrick Takusel, il dit quand même c'est bizarre ce qu'il fait. Et effectivement, que fait Patrick Takusel? Toute son entreprise, c'est une entreprise de réhabilitation générale de Fourier, mais qui fait feu absolument de tout bois, puisqu'il s'efforce à la fois de faire croire à la solidité méthodologique des observations empiriques sur lesquelles Fourier s'appuie. Alors, il y a de l'observation, on l'a dit. En même temps qu'elle soit méthodologiquement rigoureuse, c'est une autre question. Il entend aussi affirmer la force de ses démonstrations statistiques. Bon, Michel, la statistique chez Fourier, à moins de le confondre avec son homonyme éventuellement, bon, c'est la loi des 7/8 essentiellement, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une loi chez Fourier qui dit que dans toute affirmation, il y a 7/8 de vrai et 1/8 de faux, ce 1/8 servant à confirmer la règle, et à la donner à voir, sinon on ne s'en apercevrait pas. Je vais un petit peu vite, mais c'est à peu près à cela que se résume la statistique chez Fourier. Il ajoute la profondeur, alors Takusel ajoute la profondeur et la complexité de ses modélisations mathématiques, la véridicité et l'actualité des propositions sociologiques auxquelles ses observations et ses modélisations conduisent, et en définitive, l'importance de l'influence qu'il aurait eue sur l'ensemble de l'histoire des sciences humaines, et Takusel fait de Fourier longuement méthodiquement le précurseur de Walter Benjamin, d'Adorno, de Reich, de Marcuse, de Menger et de toute l'école marginaliste autrichienne en économie, de Simmel et de Weber en sociologie, de Balzac en littérature. Je cite les noms propres qu'on peut relever au fur et à mesure de la démonstration, hein, tout simplement. De Lévi-Strauss et de Balandier en ethnologie, de Piaget en psychologie. Pas la liste. Bon. L'entreprise est apprendre en elle-même proprement délirante, sauf qu'elle est lue, sauf qu'elle s'inscrit dans un travail, pas seulement d'actualisation d'une pensée, mais vraisemblablement d'orientation, de reconstruction du sens de cette pensée, qu'on peut décrypter en bonne partie en notant que Patrick Tacussel est ce qu'on peut appeler un mafesonien, aussi bien enfin, du point de vue du contenu de ce qu'il écrit par ailleurs que des réseaux dans lesquels il s'inscrit, position dans le champ, autour du champ ou quelque part dans un champ qui englobe la sociologie bon gré mal gré actuellement, que Patrick Tacussel faisait partie du jury de soutenance de thèse d'Elisabeth Tessier comme Michel Maffezoli, et que par ailleurs on a vu que Michel Maffezoli à la fin des années 80 faisait partie d'un comité qui entreprenait de créer une association des amis de Fourier avec René Scherrer, Pascal Bruckner, Philippe Solers, etc., etc. Donc il y a une cohérence et il y a un travail qui existe. Je finirai, alors sauf que tu me l'as piqué tout à l'heure, mais je finirai simplement en disant que on peut aussi comprendre l'actualité d'une pensée et l'actualité de la pensée de Fourier de façon différente. Alors, je vous en donne un exemple curieux et un exemple que je trouve particulièrement intéressant parce que complètement mégalomane. L'exemple curieux, c'est celui de Michel Brix, qui dit « La pensée de Fourier, c'est-à-dire désigner Fourier comme un précurseur, voire comme l'inventeur, voire comme la cause de la libération sexuelle des années 70, est tout à fait autorisée. » Donc Fourier est actuel dans ce sens-là, et Michel Brix dit ou écrit « Nous sommes tous devenus fourieristes ». Mais il défend l'idée d'une actualité de Fourier pour, en réalité, le critiquer et le remettre en cause. Et l'accuser de tous les maux dont nous serions victimes actuellement. C'est-à-dire l'accuser, pêle-mêle, de l'effacement du sujet, de la destruction de la famille nucléaire, du triomphe, de la quête éperdue, de la satisfaction sexuelle, etc., etc. Donc voilà. Autrement dit, on est dans le même registre. C'est pour ça que, quand tu as dit complicité objective entre libertaire et conservateur, moi j'avais ça en tête. C'est-à-dire que Debut Bridel pour le meilleur, Michel Brix pour le pire, attribuent tous deux, et en s'entendant relativement bien sur le sens qu'il faut lui donner, à Fourier la paternité ou la préfiguration de la libération sexuelle. Le dernier exemple que je vous donne, et après je m'arrête, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est complètement mégalomane, c'est celui de Paul Ricoeur. Dans des textes publiés ou rassemblés en 1997, mais en réalité qui correspondent à des conférences données dans les années 60 et 70, donc des textes relativement anciens. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ricoeur, quand il évoque la démarche de Fourier, commence par affirmer qu'il y a dans son approche quelque chose de très moderne. Donc on est bien dans cette idée de l'actualité de Fourier. Et en même temps c'est une actualité curieuse parce que il dit, il rajoute, je tente moi-même ailleurs, c'est pas Ricoeur qui écrit, je tente moi-même ailleurs de parler de la nécessaire conjonction du soupçon et de la recollection, qui selon lui est la grande idée qu'a trouvé ou qu'a découverte Fourier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette façon de dévoiler une similitude qu'il y aurait entre la pensée de Fourier et sa propre pensée, on pourrait simplement constater une proximité intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Ricoeur va complètement renverser la succession historique de ces deux pensées, celle de Fourier et la sienne, en écrivant, et je le cite, « En un sens, Fourier est le prophète de ce difficile paradoxe. » Autrement dit, Ricoeur présente Fourier comme le prophète de la pensée de Ricoeur. concrètement, il m'a semblé qu'il aurait pu... Alors, soit il a l'idée avant, il pense tout seul, ce qui peut arriver à un philosophe, et ensuite il lit Fourier, il trouve la même idée, et il se dit « Ah, chouette, c'est sympa, et je vais dire... Voilà. » Ou bien, éventuellement, il n'avait pas eu l'idée avant, il l'a trouvé dans Fourier, puis après, il a oublié qu'il l'avait trouvé dans Fourier, il en a fait la scène propre, et puis il la redécouvre dans Fourier, c'est génial, bon, mais l'idée que... Non, mais... Fourier, décrire Fourier comme le prophète de soi-même, dire Fourier m'annonce, je trouve ça proprement, mais renversant au sens causal.
Tu as un très bel exemple, Bourdieu, Lège de France. À Lyon 2, il peut être allé un peu plus loin, il aurait un...
Et voilà, c'est un peu ça. Mais
un petit effort de plus, c'est grandiose.
Moi, je crois que, enfin, pour remettre sérieusement et pour mettre les choses à l'endroit, on peut soit s'avouer inspiré par une pensée, ce qui est tout à fait bien, c'est pas condamnable du tout, et il m'a semblé voir dans cette formule de Ricoeur quelque chose comme l'expression d'une frustration de philosophe découvrant que ce qu'il avait pensé par lui-même, en fait, avait déjà été pensé 150 ans auparavant, et que, voilà, il a enfoncé une porte ouverte, et qu'il faut, du coup, le reconstruire de cette façon-là. J'arrête là, je veux dire simplement que là, j'ai rassemblé autour de Fourier un certain nombre de textes qui entreprennent de l'actualiser. On peut faire, à mon sens, mais je connais moins bien ces terrains-là, on peut faire exactement le même travail autour de Saint-Simon, voir le colloque d'il y a 2 ans à Cerisy-la-Salle sur l'actualité du saint-simonisme, c'est voir le travail que fait Christophe Prochasson aussi d'une certaine façon. On peut faire le même travail autour de Tocqueville, voir l'entreprise aronienne de construction de Tocqueville comme sociologue. Le même travail, on peut le faire autour de Le Play, voir le travail d'Antoine Savoie et de Calahorra sur les inventeurs oubliés. En réalité, le principal inventeur oublié, c'est Frédéric Le Play. Et puis, on peut faire ce travail en général et prendre comme objet certaines entreprises générales de réhabilitation. J'en mentionne 2 et je m'arrête là. La première, c'est un livre dirigé par Michel Dubois, qui s'appelle « Sociologie de l'envers », où le principe explicite, c'est d'avoir rassemblé des travaux qui portent sur des sociologues qu'on aurait oubliés, et qu'on aurait eu tort d'oublier. La liste, c'est Le Play, Spencer, Tarde, Mosca. On voit un petit peu la coloration politique. C'est ça l'idée, c'est réhabiliter une tradition sociologique. Et derrière, il y a une entreprise très intéressante à analyser, c'est-à-dire, autant j'ai tout à l'heure dit que Christophe Prochasson voulait doter la gauche non-marxiste, ou refonder les racines intellectuelles ou théoriques de la gauche non-marxiste, autant là, on voit que l'entreprise, c'est plutôt de redonner des racines intellectuelles et théoriques à une droite, ou à une certaine droite. L'autre entreprise, que je mentionne aussi pour information, parce que c'est pas inintéressant, vous la connaissez peut-être, c'est Anamnèse. Je ne sais pas si tu connais ça, si vous connaissez ça. C'est président Bruno Pétignot, secrétaire Claude Ravelet. Anamnèse est une revue qui est en train de se créer depuis 1 ou 2 ans, mais qui prend un peu la forme d'une collection, dont le propos serait systématiquement l'étude et la mise à disposition d'auteurs en sciences sociales et humaines francophones décédés, tombés dans l'oubli. Le premier le numéro 0, était consacré à Célestin Bouglet, Roger Caillois, Georges Davy, Henri Desroches, Paul Diel, Paul Fauconnet, Fred Fouillet, Pierre-Franc Castel, Lucien Goldman, etc., jusqu'à Arnold Van Genette. Les prochains numéros seront consacrés à, dans l'ordre, Georges Gurvitch, Lucien Lévy-Brul, Antoine Meillet, Célestin Bouglet. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà le projet. Donc, il y a... ça, c'est un travail constant dans l'histoire des sciences sociales. Et c'est aussi la façon dont se construit globalement l'histoire des sciences sociales depuis son origine. Voilà. Je vais vous dire ce que c'est.